À l'occasion de la fête des Toqués du Cep à Mende, je suis parti en balade accompagné d'un mycologue dans les forêts de Charpal. C'était pour une cueillette de champignons, mais surtout pour en apprendre plus sur le sujet. Ce mycologue, c'est Yannick Mourgue, président de l'assaut mycologique de Lozère de la Haute-Vallée d'Olt.
Je suis mycologue depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé avec mon grand-père à ramasser les champignons comestibles. Puis je suis rentré dans une association mycologique à Aix-en-Provence, à Lama, dans laquelle j'ai rencontré de grands mycologues qui m'ont aidé à progresser dans mes connaissances. Et puis, petit à petit, je me suis mis à acheter des livres spécialisés, des monographies, du matériel pour faire de la microscopie. Et j'ai progressé comme ça, jusqu'à devenir le mycologue que je suis aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, avec le niveau que j'ai, j'accompagne des gens dans les forêts, j'organise des sorties, je participe à des inventaires menés par l'ONF ou d'autres organismes, etc.
Et alors, est-ce qu'on ramasse que les cèpes ou on ramasse tout pour les identifier?
Vous ramassez que les cèpes, et puis s'il y a un champignon en particulier qui vous intéresse, que vous voulez, sur lequel vous voulez avoir des explications, vous le ramassez. Et bien voilà, votre premier cèpe.
C'est vrai?
Ouais. Bon, c'est caractéristique du boletus et du lys. Oui, c'est ça.
Et celui-ci, alors, c'est, vous dites un bolet?
Oui, le cèpe. Boletus et du lys.
Et c'est le cèpe.
C'est le cèpe.
Celui-là, il est joli.
Attendez, je le regarde deux secondes.
J'ai mal coupé en plus.
On le reconnaît au petit liseré blanc.
D'accord.
Qui a sur la marge.
Ok.
Voilà. Il y a un autre champignon qui ressemble beaucoup à ça. Quand on voit juste le chapeau, c'est une russule. Qui a exactement les couleurs fauves identiques à ça, mais qui a des lames dessous.
Et ça, c'est un champignon qui a quoi, quelques jours? Ça grossit très vite.
Celui-là, il a un ou deux jours.
Ah oui, ça pousse très vite, hein, quand
ça pousse très vite. Oui.
Et le fait de trouver un champignon, est-ce que dans un environnement, ça ne veut rien dire, en fait? C'est pas parce qu'il y en a un, il y a un cèpe, par exemple, qu'il va y en avoir autour?
Non, pas forcément.
Voilà, c'est pas...
Ouais, ramasse-le. Alors, il a des tons orangés, il peut devenir gros comme ça. Et c'est ce que souvent les gens confondent avec la girole.
S'il ressemble pas trop, c'est trop rond.
Ouais, mais quand il est plus âgé, il peut y faire penser. Souvent les gens ramassent ça en disant « Ah, j'ai trouvé des tonnes de girole » et en fait ils ont ramassé ce truc-là, qui s'appelle Hygrophoropsis aurantiaca. C'est la fausse girole en fait. Le nom vernaculaire, c'est fausse girole.
Et ça reste comestible?
Tellement de gens qui confondent la girole avec ça et qui les mangent et on n'a pas eu de retour, c'est que ça doit être comestible.
Okay.
Parce qu'en fait, sur les champignons, on sait très peu de choses. Il y a en France entre 30 000 et 40 000 espèces de champignons. On en connaît une vingtaine qui sont mortels, on en connaît quelques-uns qui sont toxiques, on en connaît une dizaine qui sont comestibles, et puis le reste, c'est point d'interrogation. Après, il y a des gens qui mangent tout et n'importe quoi. Ça, on n'a jamais eu de retour, ça n'a jamais causé d'intoxication, donc on suppose que c'est...
Ça demande des études, mycologue ?
Il y a un DU qui existe, un diplôme universitaire niveau licence, qui est dispensé à l'université de Lyon et puis à Lille, mais c'est tout. Après, c'est surtout l'affaire d'amateurs dans des associations mycologiques. Et puis après, c'est de la formation personnelle. Quoi. Il faut acheter des bouquins. Donc moi, j'ai commencé avec mes grands-parents à chercher les comestibles. Puis après, je me suis mis dans une association mycologique avec Aix-en-Provence, parce que j'étais là-bas à l'époque. Puis là, j'ai rencontré des grands mycologues qui m'ont appris plein de choses. J'ai fait beaucoup de sorties avec eux. Puis après, on achète de la littérature spécialisée. Et on progresse comme ça, petit à petit. Bon, après, dans les monocultures d'épicéa, tiens, ça, c'est pas un mustelina qui a été arraché, justement, celui dont je parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Russule. Quand on la voit de dessus, souvent, le chapeau est bombé. Mmh. On a l'impression que c'est un cèpe. Et en fait, quand on la ramasse, non, c'est une russule. Mustelina avec les couleurs fauves et surtout un chapeau qui est extrêmement dur. C'est ça qu'on le reconnaissait, hyper courant ici, il y en a partout. Et puis russule parce que avec les lactaires, c'est le seul groupe de champignons qui a la caractéristique d'avoir un pied avec des cellules rondes. Okay. Donc si tu veux, ça confère cette propriété, c'est que quand tu tords le pied, il se casse comme de la craie. Je claque, alors que les autres sont fibreux, parce que les ifs sont allongés, les cellules sont allongées. Alors que là, elles sont rondes et ça casse tout seul.
Et on va trouver des champignons précis parce qu'on est dans une forêt d'épicéa?
Non, il n'y a pas vraiment de champignons spécifiques à l'épicéa. Il y a un fond commun que tu vas retrouver un peu partout. Après, ce genre de monoculture, ça reste quand même relativement pauvre. Ouais, en champignons, il n'y a pas une très grande diversité. Puis le sol, ouais, tu sens qu'il a été travaillé par les engins. Oui. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est qu'il laisse le bois mort au sol, il ne nettoie plus comme il faisait avant. Du coup, ça amène un peu de biodiversité.
Et si un jour on veut aller chercher le champignon, le mieux c'est d'aller dans une forêt spécifique.
Bah, ça dépend ce que tu cherches.
Pour du cèpe, par exemple.
Ouais, du cèpe, une forêt de conifères avec quelques chênes, c'est pas mal. J'ai un mélange de pin, de chêne et de sapin, et donc c'est assez favorable. Après, le cèpe, dans ces forêts-là, on en trouve aussi beaucoup.
Il va vous dire. Je croyais que c'était un pied de mouton.
Non, pied de mouton, c'est jaune.
Ah, c'est jaune, merde.
Le pied de mouton est bien jaune.
Oui, jaune orangé, oui. Oh. Ça doit avoir les lames roses. On a des reflets roses parce qu'en fait, ce champignon va avoir une sporée de couleur rose. Et donc, c'est un clitopile. Et les clitopiles sont comestibles. Tu vois. Donc ça, c'est comestible, mais attention, il ne faut pas le confondre. Il ne faut pas se faire avoir parce que tu peux avoir des antholomes qui ressemblent beaucoup à ça. Tu peux avoir des clitocybes aussi qui ressemblent beaucoup à ça mais qui n'ont pas de sporée rose.
Je vais pas m'empoisonner.
Et ouais. Ça peut être très vite toxique.
Ouais, très toxique.
C'est goûteux.
Clitopile, c'est bon, mais bon.
Sans plus.
Sans plus.
Bon, ouais. Allez, on continue les
cèpes. Il faut le prendre hein, si vous voulez. Il a une très bonne odeur de farine. Un pied de mouton, hein?
Ouais. J'ai rien, et ça, c'est un petit cèpe, je l'ai écrasé, j'ai pas vu. Ah,
ben. Non, pas du tout.
Ah, ben, heureusement que j'ai pas mis dans le sac avant.
C'est un gonfide. C'est un gonfide, d'ailleurs, tu le vois, parce que là, tu vois, c'est visqueux.
Ah, ouais, d'accord.
C'est visqueux, et puis là, tu vois, t'as un voile qui protège les lames, et si tu enlèves ça, ce voile qui est difficile à enlever, normalement, tu dois avoir des lames dessous, mais là, elles sont pas très bien formées.
Ah, ouais, d'accord. Ouais,
tu les vois là.
Ok.
D'accord, et puis t'as un couteau là ?
Ouais.
Quand tu le coupes comme ça verticalement, tu as la base du pied jaune.
Ah ouais.
Très jaune ça comme va. Ça. Ça, c'est pas qu'il est pourri, hein, il est très frais, ouais, au contraire. Et c'est le gonfide. Gonfidus glutinosus. C'est un bon comestible que personne ne connaît, et ça, c'est très bon. Ça.
Ah mais ça ?
Le gonfide.
Vous allez la prochaine fois ? La prochaine fois, je le garderai.
Alors, ça pousse en touffe ? Ça pousse en touffe sur le bois mort, c'est un nipholome et ça c'est toxique, ça on ramasse pas.
Il y a beaucoup d'accidents chaque année avec la cueillette de champignons.
Il faudrait voir les statistiques des 130 antipoisons, mais oui, il y a toujours beaucoup d'accidents qui sont dus à la méconnaissance des gens qui croient connaître ou qui s'engagent dans la forêt avec un bouquin en se disant tiens, avec ça c'est bon, je vais y reconnaître et qui se plantent.
Ça se fait de moins en moins en pharmacie, le contrôle des cueillettes.
Ça se fait de moins en moins. Bah, après, ça c'est à l'initiative des gens. Hein. C'est les gens qui doivent faire l'effort d'aller, quand ils ont un doute, voir le pharmacien.
Et ils sont encore formés, les pharmaciens ?
Le problème, c'est que la formation en mycologie des pharmaciens, ça se réduit à quelques heures de cours dans leur cursus. Donc c'est quasiment rien. Alors ils sont capables de reconnaître les comestibles. Pour vous dire ça se mange, et puis si ça rentre pas dans quelques espèces qu'ils connaissent, ils vous diront non, on connaît pas, donc mangez pas quoi. Ou ils feront appel à un mycologue de temps en temps. Moi les pharmaciens m'appellent pour que j'aille voir ce que les gens leur amènent. Et l'idéal c'est de se rapprocher d'une société de mycologie, association de mycologie. Ouais. Oui, il y a toujours des empoisonnements dus aux amanites phalloïdes par exemple. Mmh. Les gens qui ramassent des rosées des prés, qui font pas attention, qui ramassent un chapeau d'amanite phalloïde au passage. Tu vois.
Ah, oula. Eh merde. Ça va ?
Ça va, ça. Donc quand on marche en forêt, toujours faire attention, on met les pieds. Chez moi dans les Alpes, par exemple, les gens ramassent des petits gris. Mmh. Petit gris, c'est le tricolone terreux, c'est un petit champignon gris qu'on trouve partout, qui est très très bon. On en fait des conserves aussi, au vinaigre. Et dans les Alpes, il y a le Tricholoma pardinum, qui ressemble à un petit gris, mais qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, qui n'a pas tout à fait le même aspect, et qui lui est extrêmement toxique. Et il envoie chaque année des dizaines de personnes à l'hôpital.
Là, la météo qu'on a eue ces dernières semaines, elle est propice du coup à la pousse de champignons ?
Non.
Non ?
Non, non. Il y a ces petites pluies là, qui n'ont pas mouillé le sol en profondeur. Elle a surtout profité, ça profite. Il y a tous les champignons qui déboîtent, qui dévorent le bois mort. Ils sont les premiers à sortir. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, hein, l'ifolome, c'est un saprophyte, etc. Le fomitopsis qu'il y avait sur le tronc aussi. Donc c'est eux qui en profitent. Donc j'ai dû trouver, je sais pas, peut-être une trentaine d'espèces avec les dernières pluies. Et j'ai pas trouvé plus.
Et avec le froid qui arrive de plus en plus, du coup la nuit là, ça, sans les pluies, ça va pas être une année à champignons quoi.
Ça non, ça veut rien dire ça. Il n'y a pas eu de gros gel, donc c'est pas embêtant. Au contraire, le choc thermique peut provoquer la sortie des champignons.
Ok.
Surtout si les pluies arrivent la semaine prochaine, comme il s'est annoncé, le week-end prochain, ça risque de faire de grosses poussées, au contraire.
Une russule, encore.
Mais une russule qui est liée, eh ben oui, au boulot, à l'arbre qui est devant nous, au feuillu, là.
C'est un paxil
enroulé, la marge est enroulée. D'accord. Avec des lames décurrentes qui descendent un peu sur le pied. C'est un champignon qui est très toxique, ça. Paxil enroulé.
Il a pas l'air.
Ben, il a pas l'air, mais bon, vaut mieux pas le tenter. Tu sais, la manite phalloïde, c'est un très joli champignon. Hein. Ouais. Très joli et qui a très bon goût. Mais qui est mortel.
C'est connu, je crois qu'il disait...
Tous les champignons sont comestibles, certains ne le sont qu'une seule fois. Mais même sur les espèces comestibles, il faut se méfier. Hein. Parce que déjà, il ne faut pas trop manger, il ne faut pas en donner aux enfants. Parce que le système digestif des enfants est en formation, donc ils n'ont pas forcément toutes les enzymes qui permettent de dégrader les sucres complexes qu'on peut trouver dans les champignons. Ça peut créer des gastro, etc. Même sur des espèces que l'on considère comestibles, qui sont mangées depuis des lustres et des lustres, on découvre des choses... Par exemple, il y a quelques années, on a découvert que le canari, le tricholome équestre, un tricholome de couleur jaune, moi j'en ai mangé, hein, j'en cherchais avec mon grand-père quand j'étais petit. On a découvert qu'il était potentiellement mortel.
À dose importante.
Non, il a tué des gens dans le sud-ouest de la France, il a tué des gens. Alors je me suis demandé exactement pourquoi. Donc maintenant, il est interdit à la cueillette et à la vente. De la même manière, on mange de la gyromitre depuis des lustres et des lustres. Même ici, hein, la gyromitre est très ramassée. Alors qu'on sait que c'est un champignon qui peut tuer, qui est mortel.
La gyromitre, c'est quoi ?
La gyromitre, c'est un ascomycète qui a un pied, puis un chapeau marron, un peu cérébriforme.
Alors cérébriforme, tu veux dire
en ton cerveau.
Ah, d'accord.
Je vais te montrer une photo, ce sera plus parlant. Ça, c'est très, très ramassé dans la région, ces gyromitres, au printemps.
Oui.
Mais on a découvert que ça pouvait tuer.
Alors, donc il suffit quelqu'un en mange une seule fois pour crever, alors que d'autres...
Tout dépend de ton système digestif et de ton corps.
Là, ce serait une réaction allergique ou de...
Non, en fait, ça contient de la gyromitrine, qui avec la cuisson et la digestion va se transformer en substances qui sont extrêmement dangereuses, qu'a priori le corps n'élimine pas. Donc tu les accumules, et tout dépend de ton seuil de tolérance. Si ton seuil de tolérance est très bas... Tu en manges une fois, tu meurs. Et il y en a qui vont en manger toute leur vie, qui ne vont pas en mourir. C'est très aléatoire. Ouais. Et les gyromites, selon les endroits où tu les ramasses, n'ont pas la même quantité de gyromitrine. Enfin bon, c'est assez obscur, mais on sait que ce champignon peut tuer.
Ouais. Donc,
on a même évoqué le fait que dans certaines communes où il y avait un taux très très élevé, anormalement élevé, de maladie de Charcot, la consommation de ce champignon serait à l'origine de cette maladie. Je ne sais pas où en sont les recherches actuellement dans ce domaine, mais ça, on en a parlé. Quoi. Donc la gyromitrine est considérée comme un champignon mortel maintenant. Dans les associations écologiques, on déconseille la cueillette et la consommation de ce champignon. Ça sent la farine. Après, il faudrait faire une sporée pour voir si la sporée est blanche ou rose. A priori, elle devrait être rose, vu les reflets. Donc c'est sans doute un clitopile. Clitopilus prunulus ou cystidiosus, il y a plusieurs espèces. Là, il faut faire la microscopie pour identifier l'espèce.
On n'a pas le matériel.
On n'a pas le matériel d'ici. Donc, il faut se méfier. Il faut prendre les exemplaires qui sont adultes qui sont bien développés parce qu'on voit bien la couleur des lames.
D'accord.
Et on peut dire si la sporée est rose ou pas. Le risque, c'est de confondre ça avec un clitocybe. Clitocybe blanc qui sont, eux, potentiellement très toxiques.
Très
donc
bien.
Dans le doute, on okay. ne prend pas.
On prend pas. Donc, sauf si...
Sauf si étude de microscopie derrière.
Voilà. Ok.
S'il faut étudier chaque champignon après la récolte.
Ben on arrive avec nos...
Et
c'est des microscopes, c'est
ça, c'est ça.
C'est par microscope.
Et ça, les sacs en plastique ou en tissu, c'est pas du tout bon lors des cueillettes de champignons. Monsieur va t'expliquer pourquoi.
Oui, bah parce qu'il y a des champignons microscopiques unicellulaires qui se développent très facilement dans les milieux renfermés comme ça.
Ouais.
Si vous baladez une heure ou deux, le temps que vous rentriez à la maison, ils se sont développés, ils libèrent des toxines sur les champignons que vous allez manger et vous allez vous empoisonner comme ça. Donc il faut que le champignon il reste dans un panier, il faut qu'il soit aéré pour limiter la propagation de ce genre de champignons unicellulaires.
Bon, ouais. D'accord. Allez, on jette le sac dans la nature.
Alors le sac, peut-être pas, mais le reste, oui.
Moi, j'ai jeté le reste.
Alors ça, c'est pas un sac. Hein. Ah. Ça, c'est une russule, russula mustelina. Ah oui, avec les lames. Oui. Donc ça, faut jeter, hein. Ça, c'est pas comestible.
D'accord.
Vous pouvez le manger, mais vous allez vite le recracher, en fait. Ça vous gâcherait le goût des cèpes.
Ah oui, avec des lames dessous. Hein.
J'ai une boucle. C'est une pinophilus, ça, ou...
Non, c'est pas un pinophilus, c'est un édulis, tout simple. Ok.
C'est voilà. Pas une russule. Hein.
Ah non, c'est pas une russule. Vous avez la marge blanche, là.
Ouais, la marge blanche
qui est typique de l'édulis. Ouais. Et puis le pied n'est pas suffisamment foncé pour en faire un pinophilus.
Ouais, c'est qu'ils sont plus jaunes, les pinophilus.
Ils sont plus foncés,
ouais.
Plus marron.
Comme les bronzés.
Ah ça c'est bien, c'est plus grand chose. C'est un édulis aussi.
Ouais.
C'est un édulis, mais vous avez sur le pied un développement
parasite.
D'un parasite et sur le chapeau ici aussi. Donc ça moi je vous déconseille de le manger.
Ah oui.
Et celui-là là, avec les lamelles. Là,
alors ça c'est une paxille enroulée. Paxillus involtus qui a la marge qui est enroulée sur elle-même, d'où le nom de paxille enroulée. Et c'est un champignon extrêmement toxique.
D'accord.
Bon appétit.
Je l'avais fait pour ma femme. Donc.
Ça, c'est bien un cèpe. Non, c'est pas un cèpe, ça, c'est un lexinum. Lexinum, orangitum. Bolet orangé, ouais.
Alors la russule, il y en a qui se mangent.
Il y en a qui se mangent, mais pas celle-là. Mais
celle-là, non. Et celle-là, c'est la russula mustelina, la russule belette, qu'on ouais. Trouve beaucoup ici sous les épicéas. On la reconnaît parce qu'elle a un chapeau marron couleur fauve comme ça et qu'elle est très dure. Alors ça, il ne faut pas se tromper avec ce champignon-là, parce que les lames sont décurrentes, c'est-à-dire qu'elles descendent le long du pied. C'est la propriété des clitocybes. Et chez les clitocybes blancs, la plupart sont extrêmement dangereuses, toxiques. Sauf que les clitocybes ont une sporée blanche. Et là, on voit la couleur des lames que la sporée sera plutôt rose. Du coup, c'est pas un clitocybe, c'est un clitopile.
D'accord.
Clitopile. Il y a plusieurs espèces. Il y a Clitopilus prunulus, il y a Cystidiosus. Là, c'est une affaire de microscopie, après, pour déterminer l'espèce. Dans tous les cas, ça, c'est comestible. Mais il ne faut pas se planter avec les clitocybes, parce qu'on finit à l'hôpital.
Donc,
il vaut mieux pas.
Ça qui pousse en un petit bouquet, c'est quoi ?
Alors ça pousse en touffe.
En touffe, oui.
Ouais, c'est exactement pareil. Ça pousse en touffe, c'est très commun ici, sur les souches d'épicéa. Ça a donné son nom à ce champignon, le...
C'est peut-être ça, alors.
L'ipholum en touffe, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil à différents stades de développement. L'ipholum en touffe et l'ipholum en touffe est toxique. Là, il y a plusieurs espèces. Il y a des espèces. Alors, il y a le l'ipholoma capnoides. Il y en a un autre. Alors, celui-là, il a les lames plutôt grises. Ça serait plutôt capnoides. Il y a fascicularé. Enfin, il y a plein d'espèces. Ouais.
C'est pas grave. Il ira pas.
Non, dans tous les cas, c'est toxique. Alors là, on rentre dans la famille des cortinaires. Les cortinaires ont des lames qui sont, quand le champignon est jeune, recouverts d'un voile araméen, comme des toiles d'araignée, des fils très denses, qui fait qu'on ne voit pas les lames. Après, quand le chapeau s'ouvre, ce voile, cette cortine exactement, disparaît, elle se déchire, elle disparaît. Il en reste des traces souvent sur le bord du chapeau, on le voit ici, là. Et on le voit sur le pied. Cette cortine, elle est blanche ou légèrement colorée, ça dépend des espèces. Et elle se teinte de roux parce que les spores, la sporée de ce champignon est de couleur rousse, rouille.
Et du coup, là, ce que vous voyez en rouge, ce sont les spores de ce champignon. Et les cortinaires sont dans l'ensemble tous toxiques, voire pour certains extrêmement dangereux.
Par contre, le cortinaire montagnard, on l'appelle le tueur de belle-mère, parce que vous le mangez et vous pouvez avoir des symptômes que 3 semaines après. Vous ne vous rappelez pas du tout que vous avez mangé. Et ça, c'est mortel à tous les coups.
Cette belle anecdote signe la fin du reportage en espérant que cette balade vous ait donné envie d'aller cueillir des champignons. Dans tous les cas, restez prudents sur ce que vous cueillez et faites gaffe où vous mettez les pieds.